C'est bon là? Voilà, bonjour à tous. On est toujours heureux avec Maggie de se retrouver parmi vous dans une église qu'on connaît depuis longtemps, où il y a beaucoup de personnes qu'on aime. Donc c'est toujours une joie d'être au milieu de vous et de partager aussi ce que Dieu a mis sur nos cœurs. Alors, si je vous dis demandez et on vous donnera, vous me dites quoi? Tu dis quoi? Chouette. Frapper. Ah, il veut frapper. Tu veux frapper qui? Ah, d'accord. Et puis encore? Encore autre. Pardon? Remercier beaucoup, ouais. D'accord. Alors, on a dit demandez et on vous donnera. Frapper. Et il y a un troisième, non? Chercher. Et vous trouverez. Yes. Voilà. Et en fait, c'est de ça que j'aimerais vous parler. Pas de ce verset en particulier, mais de ce que Dieu nous appelle à chercher ce qu'on a perdu afin de le retrouver. Et donc j'aimerais lire avec vous Luc 15, à partir du verset 1, juste pour avoir le contexte, et puis on s'arrêtera au verset 10. Luc 15. Les collecteurs d'impôts et d'autres pécheurs notoires se pressaient tout autour de Jésus, avide d'écouter ses paroles. Les pharisiens et les interprètes de la loi s'en indignaient et disaient « Cet individu fréquente des pécheurs notoires et s'attable avec eux. » Alors Jésus leur répondit par cette parabole. « Si l'un de vous possède 100 brebis et que l'une d'elles vienne à se perdre, n'abandonnera-t-il pas les 99 autres au pâturage pour aller à la recherche de celle qui est perdue ?» jusqu'à ce qu'il l'ait trouvée. Et quand il l'a trouvée, avec quelle joie il la charge sur ses épaules pour la ramener. Aussitôt rentré chez lui, il appelle ses amis et ses voisins et leur dit « Venez partager ma joie, car j'ai retrouvé ma brebis qui était perdue. Je vous assure qu'il en est de même au ciel. Il y aura plus de joie pour un seul pécheur qui change de vie que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. » Ou bien, supposez qu'une femme ait 10 pièces d'argent et qu'elle en perde une. Ne s'empressera-t-elle pas d'allumer une lampe, de balayer sa maison et de chercher soigneusement dans tous les recoins jusqu'à ce qu'elle ait trouvé sa pièce? Et quand elle l'a trouvée, elle rassemble ses amis et ses voisines et leur dit « Réjouissez-vous avec moi, j'ai retrouvé la pièce que j'avais perdue. » De même, je vous le déclare, il y a de la joie parmi les anges de Dieu pour un seul pécheur qui change de vie. Amen, on va prier. Voilà, Seigneur, je prie une grâce particulière sur ce temps, que tu puisses parler à nos cœurs par ta parole, avec le sceau de ton Saint-Esprit, que tu puisses venir capter notre attention et nos cœurs. Seigneur, tu sais où chacun de nous se trouve et tu sais aussi comment nous amener près de toi afin de voir qui tu es, afin d'entrer dans ta joie, afin d'entrer dans ta maison et de réaliser toutes les splendeurs que tu as préparées pour tes enfants. Merci pour ce que tu vas déposer dans nos cœurs ce matin. Je prie que ça soit accueilli par une bonne terre qui ne refuse pas la grâce de Dieu, mais qui l'accueille avec joie et qui sait la laisser porter son fruit dans nos vies. Voilà, Père, nous nous attendons à toi et nous te disons merci par la foi pour ce que tu vas nous donner d'entendre, de recevoir et de laisser germer en nous, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Voilà. Oui. Alors, juste une chose, en fait, j'ai oublié de dire ça au départ, mais je sens que Dieu insiste que je le dise. Donc, pendant la louange, j'ai juste une image, et je pense qu'elle est pour chacun de nous, finalement. J'ai vu quelqu'un qui se tenait devant une porte entrouverte, et il y avait une grande lumière derrière cette porte entrouverte. Et par la porte entrouverte, il pouvait apercevoir les beautés qu'il y avait dans la pièce d'à côté, inondée de lumière, et il y avait des très belles choses dans cette pièce-là. Mais il restait sur le seuil de la porte, avec cette porte entrouverte. Et je sentais que le Seigneur dit, très souvent vous êtes comme ça, mes enfants. Vous voyez en partie, vous restez sur le seuil de la porte, mais moi je vous invite à entrer dans la plénitude de qui je suis, de ma maison, de la maison du Père et de ce que j'ai préparé pour vous. Donc ne restons pas sur le seuil. Ne restons pas sur le seuil. Peut-être encore ce matin, je ne sais pas ce que vous avez vécu dans la semaine, et peut-être vous avez tendance à reculer d'un pas, à rester sur le seuil. Et que le Seigneur nous convainque d'entrer dans la plénitude de sa maison et de ce qu'il a préparé pour nous aujourd'hui et de sa vie en nous et pour nous. Amen. Voilà, alors, j'en reviens maintenant à la parole. Cherchez et vous trouverez. Je suis frappé de voir que Dieu est un Dieu qui cherche. C'est un chercheur, Dieu. Alors, il y a bien sûr toute cette parabole, hein, parce que les pharisiens sont choqués qu'ils soient avec des gens de mauvaise vie, des gens qu'eux ne fréquenteraient pas. Il y a tout ce qui concerne le salut. Dieu cherche des hommes et des femmes pour les amener à le connaître, pour les amener à changer de vie par la repentance, par le sang de Jésus. Et Dieu, vous savez, vous pensez à ces chercheurs de trésors. Je pense à ces chercheurs de trésors. Vous savez, il y a des gens, ils sont prêts à parcourir la planète parce que ce sont des spécialistes de chercher les trésors. Et ils parcourent la planète, ils font des recherches pour savoir où est-ce qu'il pourrait y avoir des épaves oubliées, abandonnées. Peut-être il y aura un trésor. Et très peu en trouvent, hein, mais ceux qui en trouvent, souvent, ils trouvent des trésors extraordinaires. Et je réalisais que Dieu, il est un peu comme ça. Des fois, il cherche même là où on ne chercherait pas. La différence, c'est que lui, il sait où sont les bateaux oubliés et il sait le trésor qu'il y a dedans. Alors que les chercheurs de trésors, ils savent jamais exactement où est le bateau avant de l'avoir identifié, et ils savent pas s'ils vont trouver un trésor ou pas. Dieu, il sait ça. Et finalement, je me dis que le plus difficile pour Dieu, enfin, si on peut dire, hein, mais tout ce qui concerne l'œuvre de Dieu, c'est de remonter le trésor à la surface. Et ça, c'est ce que Dieu fait dans nos vies, dans chacune des vies. Et parfois, c'est dans des épaves qu'il y a les plus beaux trésors. Parfois, si on regarde l'abîme, mais aussi peut-être notre propre histoire ou l'histoire de personnes qu'on connaît, c'est des personnes qui étaient très loin de Dieu, qui avaient une vie peut-être très chaotique, hein, peut-être même ils étaient des épaves, certains, hein, qui étaient dans la drogue, des choses comme ça, mais Dieu savait le trésor qu'il avait mis et il les ramène à la surface. Et ça, c'est l'œuvre de Dieu. Et il a du plaisir à chercher Dieu, parce qu'il sait ce qu'il va trouver. Et il a des plaisirs à remonter le trésor à la surface. Et je disais que c'est le plus difficile, parce que parfois, on laisse pas Dieu remonter ces trésors qu'il a déposés en nous à la surface. Parce qu'on ne croit pas qu'il y a des trésors, ou parce qu'on ne veut pas, voilà, laisser remonter à la surface ce qui était au fond de l'eau. Il y a comme une lutte en nous entre la pression de l'eau, la pression de la vie de ce monde, la pression de notre ancienne vie et le trésor que Dieu veut exhumer et veut amener à la surface, afin que nous le voyons et afin qu'il devienne une bénédiction pour nous et pour les autres. Donc Dieu est un chercheur de trésors. Et il a toujours ce cœur de nous ramener dans son troupeau, de nous ramener dans la maison du Père. Et il est prêt à donner tout son temps et toute son énergie à ça. Alors, c'est pas spécifiquement de ça que je vais vous parler. Voilà, je veux pas parler de Enfin, je ne vais pas parler spécifiquement du salut des autres, c'est pas mon but, mais ce que j'aimerais qu'on se pose comme question, si nous avons un Dieu qui aime chercher, est-ce que nous nous aimons chercher? Si nous avons un Dieu qui consacre son temps et son énergie à exhumer les trésors, est-ce que nous cherchons ce que nous avons perdu pour que Dieu le ramène à la surface et le retrouve? Et donc ça, c'est la seconde parabole avec cette femme qui a 10 pièces et qui en a perdu une. Il y a quelques semaines encore, c'est une anecdote très simple, hein, je pense que chacun a expérimenté ça, mais on était, pour des circonstances pas très faciles, mais on était dans ma famille, il y avait un deuil, mais donc j'étais pas dans là où j'ai l'habitude de dormir, bien sûr, et donc en me couchant, j'ai fait tomber une pièce de mon pantalon. J'ai vu la pièce de 2 euros qui filait, et puis tu l'entends rouler sous le lit, et tu la vois plus. Bon, comme Maggie dormait déjà, je me suis dit, je vais pas allumer la lumière pour chercher, alors je verrai ça demain. Et le lendemain matin, je me baisse sous le lit, je passe la lumière, mais je vois rien. Je dis, oh, c'est bizarre, mais où elle a pu passer? Bon. Et puis 2 jours après, rebelote, une autre pièce d'un euro qui tombe. Pareil, elle roule dehors. Et là, je me dis, bon, allez, je vais aller voir, je passe la lampe, rien, je vois rien. Je me dis, c'est bizarre, ça. Bon, mais comme on avait beaucoup de choses à faire, j'ai laissé passer, et puis au moment du départ, quand même, je me suis rappelé, j'ai 2 pièces, là. Ouais, la femme, elle en avait qu'une, mais moi, j'en avais 2. 2 pièces qui sont là-dessous. Donc, cette fois-ci, je vais de l'autre côté du lit, je repasse la truc, et puis après, je passe quelque chose, je me dis, ça, je dois sentir, il y avait aussi de la poussière, et puis le plancher, il avait un peu la couleur des pièces dorées, là. Donc, et puis finalement, j'arrive à voir la première pièce et la deuxième pièce, j'ai tout récupéré. Mais il fallait faire un travail. Il fallait désirer. Hein, voilà. Alors, bon, si tu le fais pour 3 euros, combien plus on doit le faire pour les choses importantes? Et donc, cette femme, elle allume une lampe. Vous voyez, c'est ce que j'ai dû faire aussi, parce que il y avait l'obscurité. Est-ce que nous laissons Dieu allumer une lampe dans nos vies pour chercher ce que nous avons perdu? Est-ce qu'on se laisse sonder et est-ce qu'on laisse Dieu amener à la lumière ce qu'on a oublié de lui, de nous, de notre vie, de ce qu'il a fait pour nous? Dieu, il nous appelle toujours à allumer une lampe. Et peut-être qu'on a oublié d'allumer la lampe du Saint-Esprit, la lampe de la parole de Dieu pour éclairer nos vies. Et donc, les pièces, on ne les voit pas. Et les choses importantes qu'on a perdues, on ne les trouve pas. Quel cœur as-tu pour chercher et retrouver ce qui est perdu? Donc, on a parlé des autres, mais je crois que si on n'a pas un cœur pour chercher et retrouver ce qu'on a perdu de Dieu dans nos vies, c'est difficile d'avoir un cœur pour chercher aussi les autres qui sont perdus. Je pense que c'est le même élan qui doit être là, le même désir ardent de chercher, le désir de Dieu de chercher et de trouver. Donc, allumer une lampe, nous laisser sonder pour trouver, pour voir et pour trouver ce qu'on a pu perdre en chemin. Et la dame, elle balaye aussi la maison. Elle balaye. Voilà, un petit peu comme j'ai fait sous le lit avec, j'ai passé quelque chose parce que je voyais pas, mais finalement j'ai touché quelque chose. Et Dieu nous appelle souvent à balayer la maison de nos cœurs. Parce qu'on sait bien que si on balaye pas une chambre, la poussière s'accumule, et surtout sous le lit, hein, vous avez remarqué, sous le lit, sous les meubles, les spécialistes du ménage, là, savent ça. C'est souvent les lieux où tout s'accumule, là. Et donc, qu'est-ce que c'est la poussière qui s'est accumulée dans ma vie, dans ta vie, à cause du temps qui passe, à cause des déceptions de la vie, à cause de la saleté qu'on prend sur le chemin, hein? Jésus, il disait bien il fallait se laver les pieds, parce qu'à l'époque, il marchait avec des sandales. Et je peux vous dire que si vous marchez avec des sandales dans des endroits poussiéreux, vos pieds, ils sont vite sales, hein? Donc, balayer. Dieu nous appelle à balayer la poussière accumulées dans nos vies par les déceptions, pour retrouver l'appel et le don de Dieu, les dons que Dieu vous a donnés et l'appel de Dieu sur vos vies. Et puis, elle cherche dans tous les recoins, de sa maison. Et là aussi, je pense que vous avez remarqué que des fois, quand vous êtes amené à bouger les meubles dans votre pièce, c'est là que vous retrouvez des trucs que vous avez même oublié l'existence. Ou alors, vous vous dites, oh là là, j'ai cherché ça pendant des mois, et puis il y a quelque chose qui est là, qui était là caché. Et parfois, il faut bouger les meubles de nos habitudes pour retrouver des choses. Les meubles de notre ordonnancement, de la façon dont on a mis en ordre nos vies, de nos propres projets, de nos propres pensées, de notre propre ordre qu'on a décidé pour notre vie. Dieu, parfois, il nous secoue pour qu'on bouge les meubles. Et on n'aime pas quand on est dérangé par Dieu. On n'aime pas quand il change l'ordonnancement de notre vie. Mais souvent, c'est parce qu'il dit, mais quand tu vas bouger les meubles, tu vas voir les choses précieuses que tu as oubliées dans ta vie. Les choses précieuses que moi j'ai semées, qui sont plus précieuses que le plan que tu as pour ta vie, qui sont plus précieuses que l'ordonnancement que tu as mis dans ta vie, bien carré, qui te donne une sorte de sécurité, mais une sécurité qui est trompeuse. Et Dieu, il veut retrouver ce qui est précieux et qui est perdu. Et puis une chose qui m'a frappé chez cette femme, c'est qu'elle a une très grande joie quand elle retrouve sa pièce. Alors vous allez me dire, c'est normal, hein. J'avais une petite joie quand j'ai retrouvé mes 3 euros. J'étais surtout content d'avoir résolu le mystère, parce que j'arrivais pas à imaginer, mais il y a un trou dans ce plancher où les choses ont disparu. Bon, je pense que j'aurais pu faire sans les 3 euros, mais j'étais toujours plus content d'avoir les 3 euros. Mais quand même, ça m'a surpris. Moi, je sais qu'il y a, au début de notre ministère, les temps étaient difficiles et on avait très peu de revenus. Et un jour, je vais au supermarché, donc je comptais chaque euro. Enfin, c'était les francs à l'époque, parce que on avait encore les francs. C'était avant 2002, donc on parlait déjà en euros, mais on avait encore des francs. Et donc, et puis je sais pas pourquoi, quelque chose me pousse à fouiller la poche arrière de mon pantalon, et je retrouve 50 francs. Waouh! Et je sais pas, ça avait dû passer dans la machine à laver, donc, mais il était toujours bien, le billet. Mais ça devait faire des semaines que j'avais oublié ces 50 francs, et croyez-moi, ça m'arrive pas souvent d'oublier de l'argent. Et là, j'avais une grande joie, mais il faut dire que ça devait représenter la moitié de ce qu'on avait à peu près à cette époque-là, à ce moment précis. Hein. Comme j'ai dit, c'était des temps difficiles. Et donc j'avais une grande joie, mais quand même j'arrive pas à imaginer. Je suis pas parti, j'ai pas téléphoné à Jean-Luc, à Annette, venez à la maison, j'ai une tellement grande joie d'avoir retrouvé mes 50 francs. Vous voyez, je l'ai pas encore raconté cette histoire. Donc pour moi j'avais une grande joie parce qu'on en avait vraiment besoin, mais j'ai toujours été étonné. Je me suis dit, mais pourquoi cette femme, elle a une tellement grande joie qu'elle va faire venir toutes ses amies. Bon, elle avait 10 pièces, elle en retrouve une. Si tu te retrouves 10% de ce que tu possèdes, c'est bien, mais est-ce que ça peut expliquer une tellement grande joie? Alors, je dirais que quand nous retrouvons les choses précieuses de Dieu, et souvent ça passe par la repentance, quand Dieu nous amène à éclairer notre vie, à balayer notre vie de tout ce qui l'encombre, et à chercher dans les recoins, à bouger les meubles, il y a un travail de repentance, et la repentance amène toujours la joie. Elle amène les pleurs, la repentance, mais ensuite il y a la joie. Et ça nous amène à partager cette joie. Et c'est le principe, hein, de l'évangile, qui est une puissance qu'on a envie de partager parce qu'elle produit une joie en nous. Donc, mais là aussi je me disais, mais quand même, une pièce, et elle est tellement joyeuse, c'est quand même, ah, c'est bizarre. Et en fait, j'ai appris par la suite, longtemps après, qu'ils ont fait des recherches archéologiques, ont montré qu'ils ont retrouvé dans la civilisation juive ancienne que les femmes mariées, elles avaient une sorte de diadème avec 10 pièces d'argent, en sorte de collier comme ça qu'elles portaient sur la tête, et c'était le symbole de l'alliance du mariage. Et elle, alors, on pense que soit c'était la dot que recevait la femme, soit au contraire c'était une jeune fille devait économiser pour pouvoir avoir ses pièces, pour pouvoir avoir cette parure, pour pouvoir se marier. Dans les deux cas, pour moi ça m'a beaucoup parlé, parce que pour cette femme, c'était pas juste une pièce sur 10 qu'elle perdait, c'était le diadème du mariage, soit pour la possibilité de se marier, soit qui lui rappelait l'alliance qu'elle avait passée avec son mari. Et moi, ça m'a beaucoup parlé parce que je me suis dit, mais qu'est-ce que nous avons oublié de l'alliance que Dieu a passée avec nous au prix du sang de Jésus? Au prix du sang de Jésus. Qu'est-ce que j'ai oublié de ça? Parfois, nous avons mis en oubli l'œuvre de Jésus à la croix, et aussi parfois nous avons mis en oubli que Jésus est un époux qui va revenir pour chercher son épouse. Il a passé une alliance de mariage. Et je crois que une des choses que Dieu veut rappeler à chacun de nous et à son Église, je reviens bientôt chercher une épouse. Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu as perdu, ou est-ce que tu n'as pas encore, ou est-ce que tu as perdu des pièces du diadème qui va symboliser mon alliance, qui va sceller l'alliance de mariage que je veux passer avec toi? Et si tu comprends ça, tu vas comprendre pourquoi elle avait un tel zèle à chercher ça. Sa vie en dépendait. C'était son espérance d'être mariée, d'avoir une postérité, d'avoir un époux et une postérité, ou c'était son rappel de ce qu'elle était une femme mariée et de ce qu'il y avait une alliance qui avait été passée avec elle. Dans tous les cas, Dieu nous dit, ne mettez pas en oubli ce que j'ai fait et que je suis votre époux et que je reviens pour chercher une épouse. C'est comme si Dieu il voulait ranimer cette conviction en nous. Il voulait ranimer ce désir et cette espérance en nous. Amen. Alors, première chose donc que nous pouvons perdre et que Dieu nous appelle à retrouver, c'est l'alliance d'époux qu'il a passée avec son épouse. Deuxième chose. En fait, c'est Maggie, dans un partage qu'elle avait fait au château, avait parlé de ce passage, et c'est ça qui a déclenché dans mon esprit toute cette pensée, cette recherche par rapport à ce qui est perdu et retrouvé. Et donc je vais vous lire ce passage qu'elle avait donné. Après, elle l'avait décliné complètement autrement, mais c'est dans Esdras. Alors, dans Esdras, au retour d'exil, on nous parle de quelque chose d'intéressant. Esdras 2. Voilà, Esdras 2. On va lire. Donc, il y a tout une listing des personnes qui vont revenir de l'exil et qui vont revenir de Babylone pour rentrer en Israël. Et donc, il y a tout un listing. Et de verset 61, à partir du verset 61, il nous est dit, Esdras 2, 61, et parmi les prêtres, les descendants de Obaya, d'Akots et de Barzilaï. Ce dernier tenait son nom de Barzilaï, le Galaadite, dont il avait épousé une fille. Ils recherchèrent leur registre généalogique, mais ne les trouvèrent pas. Ils furent donc disqualifiés pour l'exercice du sacerdoce, et le gouverneur leur ordonna de ne pas manger des aliments consacrés jusqu'à ce qu'un prêtre ait consulté Dieu à leur sujet par l'Ourim et le Thummim. Voilà, là on nous parle de personnes qui sont pas n'importe qui, hein, parce que ce sont Alors, s'il servait dans le temple, vous voyez, c'est étonnant parce que lui, il est galadite, mais il a. Oui. En tout cas, voilà, il devait exercer le sacerdoce. Donc, on peut penser que c'est plutôt des lévites, malgré l'ascendance. Je pense qu'il y avait eu un mélange quelque part, là. Et donc, il devait servir dans le temple, quoi qu'il en soit. Et donc, ils ont perdu leur registre généalogique. Et on sait que pour un juif, ça, c'était vraiment capital de connaître toute son ascendance, sa généalogie, parce que c'est ça qui justifiait qu'il était juif, et c'est ça qui lui donnait son identité en Israël, son identité de tribu, et là où il devait se positionner, particulièrement pour des lévites qui étaient appelés à servir dans le temple, à s'occuper des sacrifices, c'était d'autant plus important. Et on voit que dans toute la liste, personne n'a oublié ces registres, sauf ce petit groupe qui a oublié ses registres. Donc on voit comme une sorte de négligence là, qui est arrivée, et puis finalement, bon, ce qui est tellement précieux pour des juifs, on l'oublie. Et on peut peut-être comprendre, on se dit, ah oui, mais ils ont vécu 70 ans d'exil. 70 ans d'exil. Et il y avait une promesse qui reviendrait au bout de 70 ans, mais on se rappelle que la plupart des gens, ils ont complètement oublié cette promesse. Il a fallu que Daniel prie et que Dieu dirige ses regards vers la parole de Dieu pour qu'il se rappelle de la promesse de Jérémie qui disait que voilà, dans 70 ans, je ramènerai mon peuple sur sa terre. Et donc ça nous parle de l'oubli et de la négligence qui est liée à l'oubli de la promesse de Dieu, au manque d'espérance, au manque de foi dans ce que Dieu a déclaré et va accomplir. Est-ce que parfois nous laissons tomber des choses dans nos vies parce que nous manquons d'assurance dans ce que Dieu a promis et dans ce que Dieu va faire, dans l'espérance que Dieu va accomplir ce qu'il a promis? Peut-être c'est ça qui fait qu'ils ont perdu les registres. Peut-être d'autres raisons, mais à chaque fois que nous nous disons « Oh, c'est inutile. Voilà, j'avais pensé que avec ce que Dieu m'avait donné, j'allais bâtir, mais maintenant tout a été renversé par la vie, tout a été renversé par les circonstances de ma vie. Ça devient inutile, à quoi bon ?» Et parce que nous perdons ce regard fixé sur l'espérance de Dieu, alors nous perdons aussi notre identité en Dieu. En tout cas, ce qui est dit ici, regarde, c'est quand même très fort, hein. Il dit, ils ont été disqualifiés. Voilà. Parce qu'ils n'avaient pas leur registre généalogique, ils furent disqualifiés pour l'exercice du sacerdoce. Disqualifiés. On connaît bien ce terme en termes de sport, hein. Je ne sais pas si vous voyez... Généralement, on voit ça qu'aux Jeux Olympiques, la marche, là, les gens qui marchent 50 kilomètres, etc. Ouais, ils se déhanchent de tous les côtés. Là, c'est assez impressionnant de voir ça. Mais c'est terrible parce que ils n'ont pas le droit de courir, bien sûr. Mais donc, ils doivent toujours poser le talon comme ça et puis jamais la pointe. Mais il y a des gens qui les observent sur la route. Il y a des gens qui sont là et puis dès qu'ils posent le talon, paf, avertissement. Donc, et au troisième avertissement, paf, tu es disqualifié. Et tu peux être disqualifié au départ d'une course, hein. Bon, voilà, tu es arrivé trop tard ou tu n'as pas les choses requises. Donc, tu peux être disqualifié en cours de course, mais tu peux même être disqualifié après avoir gagné une course. Donc, disqualifié. En tout cas, moi, ça m'a toujours frappé parce que je me rappelle certaines images où tu vois la personne qui est tout prêt à d'entrer dans le stade, elle a fait les 50 kilomètres, et paf, dernier avertissement, disqualifié. Tu vois, le il est déjà épuisé, alors là, il s'effondre par terre, parce qu'il est à la fois épuisé et complètement déçu, surtout s'il était prêt de prendre une médaille. Disqualifié, c'est fort. Et parfois, parce que nous avons perdu ce regard sur l'espérance de Dieu, on peut être disqualifié pour ce que Dieu avait prévu pour notre vie, pour notre appel. Je ne dis pas qu'on perd le salut, mais on peut perdre ce pourquoi Dieu nous avait appelés, rachetés. Et ce n'est pas la volonté de Dieu. Donc Dieu nous appelle à ne pas être négligents, hein, mais à garder précieusement ce qui est important, à garder précieusement ce qui est important. Et pour ces gens-là, c'était tellement important parce qu'ils étaient sacrificateurs. Voilà, ils s'occupaient des sacrifices dans le temple. Et donc là, paf, ils peuvent plus servir Dieu dans le temple. Sacrificateur, ça voulait dire trois choses. C'était servir Dieu dans le temple, c'était enseigner la loi au peuple, et c'était consulter Dieu pour le peuple. Parfois, on n'en est plus dans l'ancienne alliance, on est d'accord, mais dans la nouvelle alliance, on nous dit qu'on est un royaume de sacrificateurs. Donc finalement, Dieu n'a pas renié, même si le sacrifice parfait a été accompli par Jésus, on n'a pas besoin d'aller au temple pour sacrifier les vaches, les moutons, etc. Mais notre fonction, on est un royaume de sacrificateurs, donc on a toujours un peu les mêmes fonctions. Servir Dieu. Bon, dans le temple, dans l'église, vous allez me dire peut-être, oui, mais le temple de Dieu, il est plus large que ça. Servir Dieu dans le monde. Ça, c'est notre appel de sacrificateur. C'est-à-dire, là où Dieu te place, c'est être un représentant de Jésus par ton caractère, par les dons et surtout le caractère que Dieu a mis dans ta vie et l'espérance qu'il a mis dans ta vie. Et donc, on est appelé à être ce sacrificateur. Enseigner la loi au peuple, ça peut être effectivement enseigner la parole, mais ça peut être aussi témoigner et amener une parole de réconfort, une parole d'exhortation, une parole de sagesse à travers la vérité de la parole de Dieu. Et consulter Dieu pour le peuple. Donc ils avaient ce rôle prophétique qui était de consulter et d'annoncer pour le peuple qu'est-ce qu'il devait faire devant Dieu. Vous voyez que c'est important de ne pas perdre nos registres généalogiques. Mais ça veut dire quoi? Parce que sinon, on va être disqualifié pour accomplir l'appel que Dieu avait prévu. Et alors, on peut être disqualifié pour notre mandat spécifique. Dieu nous appelle à reprendre le registre généalogique, c'est-à-dire notre acte de naissance en lui, ce qu'il a fait pour nous. Ce qu'il a accompli pour nous est le statut d'enfant de Dieu qu'il nous a donné, le statut de sacrificateur qu'il nous a donné pour ce monde. C'est ce que Dieu nous appelle à retrouver. Et il y a une troisième chose, c'est que donc il ne pouvait plus exercer, il y a trois choses, c'est une deuxième chose, et il ne pouvait plus, ils furent donc disqualifiés pour l'exercice du sacerdoce, et on leur ordonna de ne pas manger des aliments consacrés. Vous voyez, ça c'était le privilège qu'avaient les lévites, les sacrificateurs, c'était de manger des aliments qui avaient été amenés en sacrifice, donnés pour le Seigneur, il y avait la part pour Dieu, et eux, ils avaient le droit de prendre une part là-dessus. Mais c'est surtout la valeur consacrée de ces choses. Ça nous parle de quoi? Ça nous parle de l'amour de Dieu, de la communion avec Dieu, de l'intimité avec Dieu. Et quand nous passons à côté de ce mandat et de cet appel de Dieu, on se prive de ces choses-là. Un peu comme ces gens qui sont sur le pas de la porte dont j'ai parlé au début, et puis qui voient la lumière, mais qui n'entrent pas dans la plénitude de ce que Dieu a préparé. Dieu veut pas que nous perdions ces choses, mais il veut que nous les retrouvions. Quand l'Église perd des yeux l'œuvre de Jésus à la croix et l'espérance de son retour, et sa mise à part sa mise à part de ce monde et pour le monde, elle perd souvent son autorité. Enfin, elle perd toujours son autorité dans ce monde. Vous savez, ça m'a frappé ces jours-ci combien, à l'époque des prophètes, même des rois étrangers ou des chefs étrangers étaient prêts à écouter ce que le prophète avait à dire. Naaman, il vient, bon, il n'est pas très convaincu, c'est vrai, mais après, il accepte d'aller dans le Jourdain, et puis après il est tellement convaincu qu'il dit: mais pardonne-moi quand je vais devoir me prosterner devant la statue, parce que quelque chose a été changé chez cet homme. Je pense à une autre histoire aussi où il y a un prophète de Dieu, il y a un serviteur du roi d'Assyrie qui vient devant le prophète de Dieu, et le prophète de Dieu se met à pleurer quand il le voit, et il lui dit: mais pourquoi tu pleures? Et il dit: mais parce que je vois le mal que tu feras quand tu seras roi d'Assyrie. Enfin, il lui dit: je vois le mal que tu feras à Israël. Il lui dit: mais comment ton serviteur, ce chien, peut faire des choses comme ça? Il lui dit: je vois que tu deviendras roi de Syrie. Et la personne, elle a ce respect pour la parole du prophète, elle est étrangère à l'alliance, mais elle a ce respect. Parce qu'il y avait une autorité dans la vie des prophètes, une autorité pour être respecté même de ceux qui n'avaient rien à voir avec l'Église. Qu'est-ce que l'Église a fait de cette autorité? Et plus personnellement, qu'est-ce que j'ai fait de l'autorité que j'ai pour prier, pour encourager, pour enseigner, pour libérer? Qu'est-ce que j'ai fait de l'autorité personnelle que j'ai au sein de ma famille en tant qu'enfant de Dieu, au sein de mon travail, là où Dieu m'a placé? Qu'est-ce que Dieu veut que nous retrouvions? Qu'est-ce que Dieu veut que nous ranimions? Comme il dit à Timothée, ranime le don que j'ai mis en toi. Et l'Église doit retrouver. Elle doit retrouver. Elle doit chercher. Et elle doit retrouver le trésor qu'elle a en Jésus et le trésor qu'elle est en Jésus, à cause de l'œuvre de la croix, à cause de l'espérance de son retour et à cause de sa mise à part de ce monde et pour le monde. Elle doit retrouver son autorité. Donc, ça c'était les deux premiers points. Et je pense qu'après en avoir discuté un petit peu, on va laisser le troisième point pour une autre fois. Mais voilà, Dieu nous appelle à chercher et à retrouver. Le troisième point, c'est la parole de Dieu. Et je vais juste lire le passage, et puis on va finir là-dessus. Comme ça, peut-être ça vous encouragera à lire le passage. Donc le passage, que le troisième point dont je voulais vous parler, c'est 2 Rois 22. Et on va juste le lire, dire un mot, et puis on verra comment Dieu conduira pour une prochaine fois, en accord avec les responsables de l'Église. 2 Rois 22, donc ça nous parle du roi Josias, et qui commence à faire des travaux dans le temple de Dieu, et au verset 3, il est dit: « La 18e année de son règne, Josias envoya son secrétaire Shaphan, fils d'Atsalia et petit-fils de Meshulam, au temple de l'Éternel. Il lui dit, va trouver le grand prêtre. » Bon, il lui donne tous les ordres. Et puis, verset 8, à cette occasion, le grand prêtre Hilkia annonça à Shaphan, la secrétaire, j'ai trouvé le livre de la loi dans le temple de l'Éternel. Et Hilkia le remit le livre à Shaphan. Celui-ci le lut. Puis il le rendit auprès du roi. Il se rendit auprès du roi pour lui faire un rapport. Tes serviteurs, dit-il, ont versé l'argent qui se trouvait dans le temple aux entrepreneurs responsables des travaux dans le temple. Puis il ajouta, le prêtre Hilkia m'a remis un livre. Et Shaphan se mit à en faire la lecture devant le roi. Lorsque Josias entendit le contenu du livre de la loi, il déchira ses vêtements. Puis il convoqua le prêtre Hilkia, Akiam, fils de Shaphan, Akbor, fils de Miché, Shaphan, le secrétaire, et Asaya, l'un de ses ministres. « Allez consulter l'Éternel pour moi, leur dit-il, ainsi que pour le peuple et pour tout Juda au sujet des enseignements de ce livre que l'on vient de retrouver, car la colère de l'Éternel est bien grande. Elle s'est enflammée contre nous parce que nos ancêtres n'ont pas obéi aux paroles de ce livre et n'ont pas appliqué tout ce qui est écrit. » Et donc, je vous invite, vous pourrez lire le chapitre 22 et le chapitre 23, voir qu'est-ce que cette découverte va provoquer comme révolution au sein du peuple de Dieu, d'Israël, et pendant le règne de Josias. Mais c'est étonnant de voir qu'ils avaient jusque à oublier le livre de la loi. Que Josué, l'Éternel avait dit à Josué, tu y liras chaque jour de ta vie pour avoir du succès dans tes entreprises. Et là, c'est comme s'ils découvraient quelque chose d'étrange, presque. Ah, oh, ben, on a trouvé le livre de la loi. Tiens, c'est comme si, voilà, celui qui fait le ménage dans l'église, il va trouver la seule Bible. Il va dire, tiens, j'ai trouvé un livre, c'est bizarre, il y a marqué Bible dessus. Tiens, Rémi, qu'est-ce que t'en penses? Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Voilà. Bien. En tout cas, je vous laisse avec ça, et puis on aura peut-être une occasion de partager sur ce besoin de chercher et de retrouver la parole de Dieu. On va prier sur déjà ce qu'on a reçu. Seigneur, je te dis merci pour... pour le chercheur que tu es dans ma vie. Merci parce que non seulement tu es le chercheur, mais tu es celui qui a planté un trésor de toute éternité. Et merci de m'avoir ramené à la surface et d'avoir exhumé les trésors que tu avais déposés en moi. Et probablement, il reste encore des trésors à ramener à la surface. Merci de l'avoir fait pour chacun de nous ici. Et peut-être s'il y a des personnes où Dieu n'a pas encore fait ça, c'est une opportunité de laisser Dieu ramener votre bateau à la surface des flots de ce monde, des flots de votre vie, de tout ce qui a peut-être été englouti, oublié. Et Dieu est capable, en Jésus-Christ, de ramener ces choses à la surface et de trouver des trésors là où des gens ne voyaient que des épaves. Seigneur, merci pour cette œuvre que tu fais dans la vie de chacun de tes enfants et merci de nous donner le même désir et le même zèle pour chercher et pour se laisser trouver, pour retrouver les choses que nous avons laissées tomber en route. Seigneur, nous voulons te demander pardon pour notre négligence. Quand tu as mis des choses précieuses dans nos vies et que nous les avons laissées tomber, ou que nous les avons oubliées, ou que nous ne les avons pas fait fructifier. Seigneur, tous ces trésors qui viennent de la main de Dieu. Seigneur, tu vois, nous sommes souvent en train de courir pour rattraper des choses dans ce monde, des pièces de 2 euros ou plus, peut-être quelques milliers d'euros ici et là, mais Seigneur, pour ce qui tient notre vie comme sur un fil, est-ce que nous avons même le même désir ardent de chercher et de retrouver? Mais Seigneur, je pense à cette femme qui voyait là toute son espérance d'être mariée, tout le signe de l'alliance. Seigneur, oh, redonne-nous la vision de Dieu, la vision du retour de Jésus comme un époux qui a donné son sang pour son épouse qui est en train de la former. Seigneur, redonne à l'Église ce cœur, cette vision, cette espérance, ce désir, cette prière et cette capacité de se préparer, de se laisser transformer pour être cette épouse sans tache ni ride que tu désires et que tu viens chercher. Et Seigneur, je prie peut-être que nous avons perdu cette réalité d'être des sacrificateurs, d'être un royaume de sacrificateurs là où tu nous as placés, pour ce monde et tout ce que tu nous appelles à être par notre prière, par notre présence, par notre témoignage, nos paroles d'encouragement. Seigneur, viens chercher et nous faire retrouver ces choses. Et Seigneur, je prie pour la joie de cette femme, Seigneur, quand elle a retrouvé ce qu'elle avait de plus précieux. Seigneur, il y a sûrement des choses précieuses que nous avons négligées, perdues de vue, oubliées. Bouge les meubles, Seigneur, de nos habitudes. Seigneur, bouge les meubles, Seigneur. Et peut-être on n'aime pas bouger les meubles parce qu'il y a de la poussière dessous et ça fait beaucoup de poussière, mais Seigneur, quelles richesses sont perdues là, cachées, à retrouver. Seigneur, je prie que même dans la semaine qui vienne, Seigneur, il y ait des expériences parmi nous, dans nos vies, de choses. Peut-être on va bouger les meubles physiquement, mais peut-être tu vas bouger les meubles spirituellement. Et tu vas nous faire retrouver des choses précieuses qu'on avait négligées, oubliées, et qui vont faire notre joie, parce que ça va nous rappeler de ce que tu nous as donné, ça va nous équiper et nous rendre des bénédictions là où tu nous as placés, et ça va nous donner d'être des solutions devant les problèmes de nos familles, devant les problèmes qui sont devant nous, et dans les situations pour ce monde aussi. Donc Seigneur, je prie toutes ces choses. Fais de nous des chercheurs et qui te laissent chercher en nous, qui te laissent retrouver en nous et qui se réjouissent avec toi quand tu ramènes à la surface tous ces trésors que tu avais mis en réserve pour des temps comme celui-ci. Nous te bénissons et nous nous attendons à de grandes choses de ta part. Dans le nom de Jésus. Amen.